Dans cette vidéo, nous allons parler des formes urbaines informelles. Selon l'ONU Habitat, en Afrique subsaharienne, près de 200 millions de personnes habitent dans des bidonvilles, 190 millions en Asie du Sud, presque autant en Asie de l'Est, 110 millions en Amérique latine. L'habitat précaire est bel et bien une réalité des formes urbaines contemporaines. Le terme de bidonville n'exprime que partiellement les réalités recouvertes par ce décompte de l'ONU. Le terme français renvoie à une précarité des matériaux, tandis que le terme anglais slum désigne davantage ce que le français appellerait des taudis, c'est-à-dire des formes d'habitat dégradées, insalubres, mais qui peuvent être éventuellement en dur. Quoi qu'il en soit, ce qu'on cherche à désigner sous le terme de slum ou de bidonville, c'est le caractère insalubre du logement et également le statut résidentiel de l'occupant que l'on qualifie d'informel parce qu'il n'est pas reconnu, la propriété n'est pas reconnue dans le cadre légal. Derrière la précarité des matériaux, donc la précarité de l'installation. Alors, près de 200 millions de personnes qui résideraient dans un bidonville en 2013. Derrière ces chiffres, des situations très contrastées, évidemment. Une image des bidonvilles à Manille, peut-être la plus attendue. Une colonie populaire à Mexico, comptabilisée comme slum par l'ONU. Pourtant, les murs sont en dur, les maisons supportent des étages, les rues sont revêtues. Mais il est vrai que le statut foncier n'est pas forcément régulier. Et enfin, de nouveau, une morphologie plus attendue. La situation l'est moins en revanche, il s'agit d'un campement rom installé à l'emplacement de l'ancienne petite ceinture à Paris qui a été démantelée en 2016. On parle ici d'ailleurs de campement plus souvent que de bidonville et les termes ne sont pas innocents. Reconnaître ce type d'installation comme un bidonville, c'est d'emblée poser la question du logement indigne et donc du nécessaire relogement. Un campement, au contraire, est beaucoup plus éphémère. Pour l'heure, aucune solution n'est apportée à ces logements de fortune qui sont tolérés jusqu'à ce que la situation devienne intenable pour les riverains. La préfecture donne alors l'avis d'expulsion, le campement se déplace dans une commune voisine, etc. Alors, si le bidonville constitue l'archétype de la pauvreté urbaine, il constitue aussi véritablement un des modes de production de la ville qui continue d'absorber une grande part de la croissance démographique en milieu urbain. Un mode de production de la ville, d'autant plus que ces quartiers, nés dans l'illégalité, n'ont pas forcément vocation à y rester. Les pouvoirs publics se situent davantage dans une position de régularisation a posteriori qui peut prendre de diverses formes suivant les contextes. Ainsi, au Mexique, en réalité, la régularisation des installations illégales est pratiquement prévue dans la loi. Après 5 années consécutives de résidence pacifique, le délogement non consenti est interdit. Et pour autant, la régularisation est loin d'être automatique. Les démarches pour changer le statut du sol, pour obtenir les titres de propriété sont longues, elles sont coûteuses pour les habitants et elles nécessitent de s'appuyer sur des réseaux politiques pour aboutir. Dans ce quartier de la périphérie est de Mexico, on identifie tout d'abord la diversité des statuts fonciers de départ. Ensuite, la diversité des organismes qui interviennent dans la régularisation. Et à l'arrivée, des inégalités dans l'avancée des processus de régularisation à l'échelle même du quartier. La reconnaissance juridique de l'installation, comme l'arrivée des services urbains, donc on parle ici de consolidation physique, est étroitement liée aux dynamiques d'organisation collective et à la capacité des habitants à s'insérer dans des réseaux de clientélisme, finalement, auprès des autorités. Dans un autre contexte, en Inde, où les politiques de titrement ont été fortement soutenues par la Banque mondiale depuis 30 ans, le bilan des régularisations est finalement ambigu. La pression est forte sur les habitants qui sont davantage dans une logique de survie que dans une logique commerciale. Et cette pression, d'autant plus forte que le bidonville régularisé se situe en position centrale, peut conduire les habitants à vendre et à s'installer de nouveau illégalement, plus loin en périphérie, dans une nouvelle colonie illégale. Ici, la sécurisation de l'installation qu'autoriserait la légalisation de la propriété est toute relative, bien entendu. Toujours en Inde, d'autres politiques associent régularisation foncière et opérations d'aménagement et de relogement. Alors, ce sont des opérateurs privés qui assurent ces opérations de reconstruction pour le relogement. Des transactions se mettent en place entre les groupes immobiliers, l'État et les habitants en sortant rarement gagnants, pas forcément gagnants dans tous les cas. L'aboutissement du processus de relogement est assez aléatoire et finalement peu satisfaisant. Une pièce unique pour remplacer l'ancien rez-de-chaussée informel sur lequel on avait monté jusqu'à 4 étages, soit pour loger la famille, soit pour la location. Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est que l'intégration du quartier né dans l'informalité passe par une régularisation de la propriété, par l'arrivée des services urbains et également par une diversification sociale de la population résidente. Mais on retient également qu'intégrer les quartiers informels dans la ville ne signifie pas éliminer la pauvreté. Et c'est au final vers d'autres marges urbaines plus lointaines que se dirigent les plus démunis pour lesquels, finalement, le quartier consolidé est désormais inaccessible. Alors, des productions informelles dans les métropoles occidentales, il est vrai que si elles sont moins visibles, on observe également des formes de production de logements dans les villes du Nord qu'on peut qualifier d'informelles, dans la mesure où elles se développent en marge des règlements d'urbanisme et des plans d'aménagement. Dans l'agglomération parisienne, ces formes de production touchent particulièrement le tissu pavillonnaire. On voit se développer une offre locative privée, les maisons sont divisées pour la location, les garages, les combles, les abris de jardin également sont transformés en studios pour la localisation. Cette offre s'est développée dans une certaine mesure dans un vide juridique, étant donné que la délivrance d'un permis de construire n'est pas obligatoire, puisque l'enveloppe du bâti lui-même ne change pas. Alors, vide juridique que la récente loi Allure participe à combler toutefois. Mais les municipalités se sont trouvées face à des besoins en termes d'offres scolaires, par exemple, qu'elles n'avaient pas du tout anticipés. On voit bien sur la carte que ce sont les communes les plus populaires qui sont avant tout concernées par le phénomène et également combien ce sont les ménages les plus fragiles qui occupent ce parc de logements. Finalement, la paupérisation et le renforcement de la concentration des plus pauvres dans des communes déjà précarisées se comprend si on prend en compte certes la paupérisation des résidents du parc HLM, mais également le peuplement de ce parc social de fait, entre guillemets, qui constitue bien souvent la seule alternative pour ceux qui n'ont accès ni au logement locatif, ni au marché locatif ordinaire, ni au secteur locatif social. Comme précédemment dans les villes indiennes, se pose ici la question du droit au logement et de la place des plus pauvres dans la ville. Alors, deuxième volet très rapidement de l'informalité en ville, les activités. Le secteur informel, donc il s'agit du petit commerce, de l'artisanat, des transports également, constitue bien souvent le seul marché de l'emploi ouvert aux plus pauvres, non qualifiés, particulièrement en Afrique. C'est le cas, l'exemple développé ici, à Kinshasa par exemple, donc la capitale de la République démocratique du Congo. L'économie informelle domine largement, elle assure 1 million d'emplois et 90% du revenu monétaire des ménages. Toutefois, là encore, la frontière entre ce qui relève du secteur informel et ce qui relève du secteur formel est ténue. Si on prend l'exemple des contrats de travail au Mexique, un contrat de travail formel est assorti d'un certain nombre de droits, sécurité sociale, alors pour le salarié, mais également pour toute sa famille, des congés payés, des droits au crédit également. Mais certains contrats ne sont assortis que d'une partie de ces prestations, en général c'est la sécurité sociale, et sur une partie seulement du salaire, de manière à ce que les cotisations soient moins importantes. Et bien sûr, au Mexique comme ailleurs, la sous-traitance auprès d'une entreprise non déclarée est légion. Alors, on retrouve bien des fonctionnements que l'on connaît également dans les villes occidentales, hein, la sous-traitance dans le secteur du bâtiment par exemple, la déclaration partielle des contrats de service à la personne, ou encore, comme l'évoque cet article du Parisien, des garagistes sauvages dans des quartiers populaires, donc ici juste de l'autre côté du périphérique. Pour conclure, on peut retenir cette idée que finalement, plus qu'une question de forme elle-même, c'est certainement la proportion des modes de production des logements et des types de contrats de travail qui différencierait les marchés du logement et du travail des métropoles du Nord et du Sud. Dans les deux cas, derrière le vocable informel, l'insécurité des citadins concernant leurs conditions de logement et leur accès à la protection sociale.